Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Serge Revel, vous êtes un classique du Nord-Isère. Je vais quand même vous présenter pour les personnes qui sont là, puis pour les auditeurs. Vous avez été conseiller municipal, maire de la commune de Pressin. Vous avez été vice-président de la communauté de communes des Vallons du Guiers. Ensuite, conseiller général de Pont-de-Beauvoisin, vice-président du conseil général de l'Isère, chargé de l'environnement et du tourisme. Pendant ce temps-là, apparemment, vous n'aviez pas assez à faire. Vous lancez les Historiales, l'association qui organise chaque année un spectacle historique autour d'un thème, d'une période, 14-18 cette année, 39-45 l'année prochaine. Et comme vos journées ne sont pas suffisamment pleines, vous vous mettez à écrire des romans sous le pseudonyme d'Yvan Briac. Vous avez également écrit, c'est peut-être votre premier livre, c'est un recueil de poésie. J'allais oublier jusqu'en 2007 une activité professionnelle quand même. Maître de conférence à l'Institut de communication, l'Université Lyon 2, Louis Lumière. Comment fait-on au milieu de toutes ces activités pour laisser une place à l'écriture ?
Ah, l'écriture, c'est quelque chose qui est très ancien. Hein, j'écris depuis que je suis adolescent, des poèmes surtout. Et puis, l'écriture, c'est une. Je dirais que c'est presque une maladie. C'est un besoin. Donc oui, laisser du temps, il n'y a pas de souci, parce que je me lève à 5h du matin, donc je écris de 5h à 8h, donc j'ai pas de souci. Après, je peux commencer une journée.
Ça veut dire que vous avez toujours écrit ?
Non, pas de façon continue, parce que quand on a une activité professionnelle, c'est pas facile. Mais là, maintenant, depuis des plusieurs années, oui, j'écris tous les jours de 5h à 8h, oui.
D'où vient ce désir d'écrire ? Est-ce que c'est un rêve que vous avez un temps caché ou que...
Non. J'ai toujours aimé la littérature, toujours aimé la poésie, toujours aimé la chanson française, poésie et chanson, toute la musique des mots, voilà. J'ai toujours aimé la musique des mots. Donc je recherche toujours la musique des mots dans ce que j'écris.
Alors ça veut dire ça, que ce que vous écrivez, vous le lisez à voix haute une fois que vous l'avez écrit régulièrement?
Je ne le lis pas à voix haute, je me l'oralise en permanence.
Ça veut dire quoi?
Pas tout à fait pareil, je l'entends dans ma tête. Je ne le prononce pas, mais je l'entends tout le temps. La musique, j'entends la musique, oui, c'est à quoi je suis plus attaché, c'est la musique. Alors je sais pas si ça se ressent, hein, mais c'est ça, c'est cette musique.
Alors vous commencez à écrire un premier roman sous un pseudonyme. Pourquoi cette volonté de ne pas signer sous votre propre nom ?
Est-ce que j'étais
dissimulé ? Est-ce que c'est une envie de conduire tranquillement deux activités parallèles ?
Oui, c'est plutôt ça. Et puis j'étais prof à la fac. Je dis, si jamais son bouquin il a un peu de succès, j'ai pas envie que mes étudiants sachent que j'écris. Voilà.
Alors, pour préparer cet entretien, j'ai malheureusement pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu trois romans à la suite. Mmh. J'ai l'impression que la première caractéristique de ce que vous faites, c'est que vous êtes un conteur d'histoires. Vous aimez les histoires, manifestement.
Oui, j'aime beaucoup les histoires. J'aime bien imaginer l'imaginaire, raconter, mais toujours à partir quand même de réalité. Hein. C'est jamais, rien ne part de zéro.
Et alors, elle démarre comment, ces histoires ?
Elle démarre bizarrement. Celui-là, vu la jeune fille et le capitaine, elle a démarré, j'étais en camping-car dans les Vosges, je remontais vers l'Allemagne, et puis il y avait des champs de tournesol, et il y a une camionnette qui me dépasse, avec écrit en énorme sur la camionnette, Sidi Ibrahim, il était plombé ou quelque chose comme ça. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, entre les tournesols, Sidi Ibrahim, etc., j'étais maire aussi à l'époque. J'ai écrit tout l'été. Donc voilà, ça aboutit à ce petit ouvrage.
Et chacun des textes que vous écrivez démarre de cette manière-là, on va dire ?
Non, pas forcément. Le sculpteur de rêve, ça c'est à mes études grecques. J'ai toujours eu envie, je suis fasciné par la Grèce, par les îles grecques. J'ai toujours eu envie d'écrire sur la Grèce. J'ai toujours envie d'écrire, je crois que je recommencerai. La Grèce me fascine, les îles grecques me fascinent, les philosophes grecs me fascinent. Je suis à l'aise quand je suis en Grèce. Je me sens chez moi.
Les trois romans que j'ai lus, donc, ils sont dans des univers très différents. Justement, on a la Grèce, là, dans le premier, le sculpteur de rêve. Et puis là, on a la France qui est envahie par une troupe barbare, dites-vous, de religion musulmane. Et puis, en dernier, les grandes évasions de Paul Métral.
Je crois que celui-là est vraiment complètement à part. Alors que les autres, il y a quand même quelque chose qui revient derrière. Enfin, pour moi, hein, c'est un peu le thème de la solitude qui revient tout le temps. Hein, et dans tous les autres aussi.
On va en reparler.
Voilà. Donc, mais celui-là, c'est vraiment, c'est à part. Hein. Je me suis amusé. En tant que maire, j'ai imaginé une invasion musulmane, des armées musulmanes dans mon village, les réactions des uns et des autres. Voilà. Mais c'est un ouvrage qui aurait mérité de sortir l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi. Peut-être pas aujourd'hui, parce que là, je me fais tuer. Mais il y a 2 ou 3 ans, je pense qu'il aurait plus de succès qu'il en a eu.
Mais alors, on va parler un petit peu de ce dernier bouquin, Les grandes évasions de Paul Métral, pardon, oui. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on raconte l'histoire, parce qu'il y a un réel plaisir de lecture. Alors, on va essayer de ne pas tout dire.
Je ne dirai pas la fin, donc c'est déjà pas mal.
Non, on ne dira pas la fin, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'un homme âgé de 89 ans. Il est en forme, physiquement. Il aime la vie. Et puis, voilà que sa petite nièce a décidé de l'envoyer dans une maison de retraite, c'est bien ça?
Oui, oui, totalement. Il est en pleine forme, il pète la vie, comme on dit. Comme on en connaît beaucoup, hein, autour de nous, on en connaît tous quand même un certain nombre qui sont en forme, qui ont envie de vivre, qui vivent, qui sortent, qui vont au cinéma, etc. Qui, voilà, quoi. Qui ne se considèrent pas comme des vieillards.
Et alors, pourquoi cette petite nièce, elle veut s'en débarrasser?
Quand on est, vous l'avez sans doute vu autour de vous, hein, mais quand on n'a pas de famille, qu'on a un peu d'argent, on a toujours quelqu'un qui s'intéresse à vous. Donc la petite nièce s'intéresse, c'est un regard.
Il n'a pas de famille, Paul Métral?
Aucune famille, sans Paul enfant, Métral. Paul Métral, donc sans oui. enfant, un seul amour.
Justement, vous dites un seul amour, moi c'est une histoire d'amour ce bouquin.
Oui, quand je dis c'est une histoire d'humour, enfin l'humour, c'est l'humour, ça cache beaucoup de désespoir. Hein. C'est une façon de se cacher derrière, hein. C'est pas facile à écrire un livre d'humour et en même temps, ça permet de faire passer plein de choses. Et oui, c'est plus une histoire. C'est autant une histoire d'amour qu'une histoire d'humour, que de l'humour. Autant. Sinon, peut-être plus d'ailleurs.
Puis finalement, j'ai l'impression que c'est un hymne à la vie.
Ah ben oui, heureusement. Hein. Mais on y reviendra peut-être. Hein, mais quand on écrit, on s'investit forcément. Hein, donc, je me suis mis à la place de cet homme. Je me mets souvent à la place, mais je crois que c'est tout écrivain, se met à la place de ses héros. Je me suis mis à la place du sculpteur, je me suis mis à la place de Paul Métral, je me suis mis à la place de... Là, c'était facile, dans le village de ville capitale du maire. On joue des personnages, et une fois qu'on est rentré dans le personnage, eh ben, il faut aller au bout. Hein.
On a l'impression, vous allez nous le dire, que vous avez exprès choisi de raconter un homme qui était en bonne santé, qui n'avait pas de problème financier, comme si vous n'aviez pas voulu donner dans un certain misérabilisme. Est-ce que je me trompe?
Oh non, pas du tout. Hein. Il n'a aucun problème ni financier, ni physique, ni mental. C'est quelqu'un qui est en pleine forme sur tous les plans. Hein. C'est quelqu'un qui adore la vie. Mais bon, j'ai des exemples dans ma tête, j'ai des exemples dans ma famille, j'ai des exemples... voilà, j'en ai même un certain nombre. Hein. Donc c'est surtout à partir de ces exemples-là que je suis parti. Puis moi, je suis encore en pleine forme. Donc je me suis imaginé, pour l'instant, hein, je me suis imaginé dans 20 ans, je disais, j'aurai peut-être autant la forme, mais anticipons, oui.
Je peux vous demander de nous lire un petit passage. Ils sont dans la forêt. Il pense à Lou, à sa femme qui est morte il y a 5 ans.
C'est quand il s'est évadé pour partir dans sa forêt.
Mais c'est vous qui racontez l'histoire, c'est pas moi.
Bien. C'est une de ces évasions, c'est ça.
Je vous ai marqué.
Vous avez marqué. Oui. Hein. Donc nous avons traversé le bourg, gagné mon village, pris un chemin s'enfonçant dans les bois. À cette époque, et un jour de semaine, en plus, personne, ni promeneur, ni ramasseur de champignons, ni chasseur. La forêt était à moi, j'en connaissais tous les recoins, tous les sentiers, presque tous les arbres. Hakim, qui est un chauffeur marocain avec lequel il s'est lié d'amitié et qui lui sert d'intermédiaire, parce qu'on peut pas vivre seul aujourd'hui. Hein, c'est impossible, surtout à cet âge. Hakim s'est chargé d'essentiel. Je l'ai guidé jusqu'à mon refuge, à 30 minutes de marche, une minuscule clairière autour d'un grand être centenaire. Il y a bien longtemps que nous l'avions découvert avec Lou. Ce fut un des lieux de nos premières balades d'amoureux. Le taillis de châtaignier avait été coupé il y a 20aine d'années et il a fallu près d'une décennie avant que la forêt soit de nouveau abordable. Nous y sommes retournés. Sur le tronc du hêtre, nos initiales gravées étaient profondément incrustées. Nos seules initiales, ce qui signifiait que ce lieu reculé était bien peu visité. L'arbre, en se développant, avait étouffé toutes les pousses velléitaires et il régnait sur ce coin de forêt. À l'automne, c'était une cathédrale de lumière, jaune, orangé, brun. En hiver, sous la neige, contour de branches soulignées, il était plus impressionnant encore. Mon être, mon arbre, si chargé de vie et de souvenirs. C'est à ses pieds que j'ai enfoui les cendres de loup et me l'ai fait promettre. Donc là, il est dans sa forêt. Et il va vivre dans sa forêt. Il va vivre dans je ne veux pas forêt. Le raconter. Mais quand même, il va vivre dans sa forêt pendant plusieurs mois, complètement à l'abri. Il va déjouer plusieurs tentatives, entre guillemets, plusieurs intrusions. Et puis, il y aura la dernière, un peu de sa faute, par forfanterie, parce qu'il a voulu blaguer. C'est lui qui était le grand déclencheur. C'est vrai que Hakim l'avait prêté son burnou. Et puis qu'il lui avait passé ses cigarettes marocaines, écrites en marocain. Donc vous imaginez toutes les forces de la nation qui sont tombées, qui ont tourné autour de la forêt ce jour-là. Voilà, c'est un petit clin d'œil à l'actualité.
Que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Je marche sur la grève, où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme, qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit.
Au fil des arts sur Couleur FM, nous venons d'entendre « Juste pour me souvenir ». C'est un extrait du 5e album de Noël Leroy, dont les chansons reprennent des sonorités plutôt celtiques.
Ah justement, vous n'allez pas me faire croire que vous avez choisi par hasard le seul copain de cet homme, de Paul Métral, c'est Hakim. Vous ne l'avez pas choisi par hasard.
Ah non, absolument
pas. Cet homme qui a des racines au Maroc. Donc,
oui, qui est marocain, qui a des racines au Maroc. Non, je ne l'ai pas choisi par hasard, au contraire. Hein. Moi qui suis profondément antiraciste, complètement scandalisé par ce que j'entends aujourd'hui, vous imaginez bien qu'il y a toujours quelque chose derrière. Hein. J'entends des horreurs. Je hurle, je ne peux pas, je ne tiens pas. Hein. Donc, mon personnage, là, c'est un des seuls personnages sympas.
Je vais dire, c'est le seul personnage positif.
Voilà, le seul personnage positif, c'est le seul.
Un coup avec Hakim, il va au cinéma, Hakim est complice.
Il le reçoit dans sa famille, parce que les Marocains, moi j'étais souvent reçu par des Marocains, ils ont un sens de l'accueil, de l'hospitalité qui est extraordinaire. hein, comme dans la plupart des pays africains aussi. Si au moins on pouvait prendre ce modèle chez nous, ce modèle d'hospitalité et d'accueil.
Et alors il a un petit jardin, il lui propose même d'entretenir son jardin.
Oui, parce que Paul Métral, c'est un amoureux fou des jardins. Donc il avait son petit jardin, il cultive son jardin, il l'a cultivé, il va le cultiver en douce, il va se faire prendre bien sûr, et voilà, il va essayer de cultiver le petit jardin de son chauffeur. Mais le jardin c'est un symbole aussi, c'est un symbole de vie. Hein. Quand on... mais quand on plante, quand on plante, on sème à 80, 90 ans, c'est qu'on aime la vie. J'ai connu des personnes âgées à Pressin, là, surtout un vieux monsieur que j'admirais beaucoup, qui à 92 ans plantait encore des arbres. C'était toujours mon rêve, j'espère que je l'en planterai aussi à 90 ans. Planter des arbres pour les générations futures. C'est ça, voilà, c'est, on transmet quelque chose, c'est fantastique. On croit à la vie quand on aime. Et quand on aime les arbres et quand on plante des arbres, moi j'adore les arbres.
Vous n'aimez pas les platanes ?
Ah non, pas du tout. C'est pelé, ça pèle, c'est... non, c'est, j'aime pas. Puis j'aime pas le midi, donc j'aime pas les arbres du midi.
Oui, puis c'est un arbre particulier, c'est pas un arbre de forêt.
C'est très particulier, c'est pas un arbre de forêt, les feuilles se décomposent pas. Non, c'est un arbre lépreux. J'aime les hêtres.
Vous aimez les champignons ?
Ah oui, mais ça sent, non ? J'aime les jardins, j'aime les champignons, j'aime les bois, j'aime les arbres. Je ferai comme mon petit vieux, là, je vous dirai pas. Hein. C'est là-bas.
Je m'en doutais un peu.
C'est par là-bas. Hein.
Et puis en fait, là-bas, c'est la direction opposée.
Normalement, oui.
C'est un roman d'amour, c'est l'histoire d'un homme rebelle. Il y a une énorme tendresse de votre part.
Oui, j'avais de la tendresse pour ce personnage. Alors peut-être parce que je me mettais un peu dans sa peau aussi, il faut être honnête. Hein. Et puis j'ai beaucoup de tendresse pour les personnes âgées. Où ils ont un savoir immense. Je trouve tellement absurde de voir des gens mourir que ce savoir ne se perpétue pas d'une manière ou d'une autre. Or, même s'il se perpétue un tout petit peu, c'est une infime partie, vraiment infime. Et si on cumulait les savoirs depuis des milliers d'années, je pense que l'homme serait parfait. Mais là, bon, on perd tout. On perd une personne âgée, c'est comme quand on perd un vieil arbre. Hein. Je veux dire, on perd une personne âgée, on perd... On perd des savoirs fantastiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, parce que tout le monde a des connaissances pointues, techniques, littéraires, enfin bon, tout le monde a des connaissances à un moment ou à un autre, hein, des savoirs.
Et alors du coup, parce qu'il ne trouve plus sa place dans la société, ben, il se révolte, et il y a un passage qui est assez amusant, si vous permettez,
oui.
Où il imagine de l'institution dans laquelle il est, se rebeller.
Mais j'en ai un autre passage aussi qui joue.
Je vous en prie.
Oui, c'est quand il est avec la femme de ménage, la femme de ménage qui vient essayer de s'occuper de lui, qui va ranger son bureau. C'est vrai, on n'aime pas qu'on touche notre bureau, hein, tout le monde, hein, normalement. Mais j'étais vite classé comme un vieillard anarchiste, c'est-à-dire rouspéteur, pénible, mauvais esprit, libertaire, grossier, insupportable, inadapté à la vie de groupe, irréversiblement chiant, pour tout résumer en deux mots. Je risquais de donner le mauvais exemple. Si tout le monde se comportait comme vous, monsieur Métral, m'a dit le Bonbon Rose, qui est la directrice, hein, sur un ton d'autorité agacée. Vous imaginez ? J'imaginais parfaitement. Les oiseaux en folie, les petits vieux, mes confrères. Une petite parenthèse, les oiseaux, vous avez vu que ça me fait sourire, parce que plus je passe de partout, j'ai été responsable de la CORTA, coordination gérontologie, quand j'étais vice-président du conseil général, et je suis allé dans pas mal de maisons de retraite, alors les mésanges, les oiseaux, les fauvettes, etc., ou alors les gentianes, les violettes, etc. C'est jamais les chrysanthèmes, c'est jamais les corbeaux. Hein. C'est ni les soucis, d'ailleurs, pour apprendre un temps plus. Donc voilà, les oiseaux en folie, les petits vieux, mes confrères d'informement, brandissant l'étendard de la liberté, les fauteuils dans la cour, dans la rue, les déambulateurs, les cannes levées, tout le monde dort, envahissant les bistrots et revenant après l'heure du repas, dans une joyeuse pagaille, chacun, chacune, imbibé d'alcool, qui fait voir la vie en bleu ciel, tout chantant la Madelon, une chanson universelle, que les commémorations de la Grande Guerre ont remise au goût du jour. Et en avant, des vieillards en goguette, poursuivis par le général Bonbon Rose et six lieutenants en blouse blanche qui voudraient bien faire rentrer leur troupeau à l'écurie pour lui donner une bonne dose de tranquillisant, de quoi l'assommer quelques jours et lui ôter l'envie d'escapade libertaire. Oui, j'imaginais et je souriais. Et je peux juste un tout petit...
Mais...
Parce que celui-là, je l'aime bien, c'est celui que je préfère. Où il est ? Voilà, donc il s'est enfui une nouvelle fois et le Dauphiné libéré, il faut bien citer un journal, le Dauphiné libéré parle de lui. Nous sommes toujours sans nouvelles du disparu des fauvettes. La gendarmerie a interrogé tous les hôteliers, les propriétaires de chambres d'hôtes. Aurait-il pris un train pour une destination inconnue ? Sa famille est de plus en plus inquiète car sa santé est fragile. Sa famille. La grenouille, oui. Suivait un appel de mon âge, de mes prétendues infirmités et défaillances. quelle délicatesse. C'était tout grenouille. Elle n'avait pas encore osé parler de la prostate, mais cataracte. Avis de recherche, toute direction. Si vous apercevez ce vieil homme fugueur, par pitié, ramenez-le à la raison, au bercail, au pensionnat, pour prémourant. À mon âge, on n'a droit à aucune liberté, à aucune fantaisie, à aucun plaisir, hors ceux qu'on veut bien vous accorder, un goûter, un chocolat. À mon âge, on n'a pas le droit d'être un peu fou, de rêver, de partir, de voyager seul ou d'aller au cinéma sans garde-chiourme. Immédiatement, vous êtes suspecté de démence sénile ou de prédémence. À votre âge, monsieur, mais ce n'est pas raisonnable. Et si je veux pas être raisonnable? Aux adolescents, on dit un peu la même chose. Mais ils ont l'avenir. Ils peuvent se révolter, tout envoyer promener. Mais nous, les vieux, on nous tient. On nous tient par notre faiblesse physique, voire mentale. Ce n'est plus votre âge. Vous ne pourrez jamais. Rendez-vous compte. Vous allez vous tuer. Et après, la belle affaire. Mourir dans l'action plutôt que dans un mouroir. Mourir dans le plaisir plutôt qu'anesthésié par les neuroleptiques. Il est limité le droit des vieux au plaisir. Je parle même pas de la jouissance. Tabou le mot, horrifique. Jouir est devenu un péché, une aspiration contre nature. Imaginez un petit vieux à cheval sur une petite vieille, les chairs dégoulinantes, les derniers râles, burk. La société ne veut pas de ce scandale. Cachez-les, les vieux, qui n'aillent pas nous faire des saletés. Ou alors, on veut pas le savoir. Tout est interdit, même fumer, même boire, au-delà du verre de piquette qu'on vous sert, comme si c'était du nectar. Dans les hospices modernes, on chasse les vieillards accros au tabac. C'est pas bon pour vous, pour votre santé, monsieur. Vous pouvez en mourir. Et puis c'est interdit. Alors ça m'avait frappé dans un EHPAD que je ne vous citerai pas. On avait jeté carrément un petit vieux qui sortait fumer une cigarette en lui disant, mais ça vous votre santé, c'est quand même pas bon. Il a plus de 90 ans. Hein. Mais c'est pas bon votre santé, mais vous pouvez en mourir. C'est ça qui me scandalise. Moi, c'est le regard de la société sur les personnes âgées qui me scandalise. Parce que quoi qu'on dise, les gens qui travaillent dans les EHPAD, etc., ils sont pleins de volonté, ils ont envie d'aider, ils sont pleins de gentillesse pour l'immense majorité des cas, pour ces personnes âgées. Mais au-delà de la gentillesse, ils ne voient pas comment ils les traitent. Ils les infantilisent. Oui. Vous m'avez fait ça. Oui. Vous savez comment on le fait pour les gamins? Mmh. Ah, il m'a encore fait une saleté. Mmh. Hein, il m'a encore défait son lit. Il m'a encore fait pipi dans le lit. Enfin bon, voilà. Hein. Voilà, donc cette appropriation, elle est étrange d'ailleurs. Mais moi, c'est ce regard sur la société sur les personnes âgées qui me dérange profondément. Vraiment profondément. Et c'est pas qu'un exemple. Tout le monde en a. J'ai eu plein d'échos de personnes qui m'ont parlé de leurs parents et sans méchanceté d'ailleurs, hein, mais de cette façon de traiter les personnes âgées dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc. Et ça me désole profondément. Ce sont des gens qu'il faut infiniment respectables. Puis, je crois que ça dépend aussi des gens qui sont dans les... C'est ça aussi qui me scandalise, qui sont dans ces hôpitaux, suivant leur niveau social, leurs conditions, etc. On les traite différemment. Hein, je me souviens d'un ancien député dans notre secteur, il était dans une EHPAD. On lui disait, il avait 90 ans, il était vraiment mal. On lui disait, monsieur le député, comment, etc., etc. On le traitait avec beaucoup de respect, comme on devrait traiter tout le monde.
Dans le passage que vous venez de lire, il y a une question de cigarette. Et un jour, Paul Métral descend dans la cour, il a entendu des jeunes qui pétaradent. Racontez la suite.
Ah, je peux vous la raconter, oui, c'est une façon de s'évader. Hein. Il est dans la cour enfermé, vraiment enfermé dans cette maison de retraite. Hein. Il ne peut plus sortir, il est avec les Alzheimer, interdit, voilà. Hein. Il n'a même pas eu le temps d'apprendre le code ou d'écouter le code pour sortir. Donc, il entend des jeunes de l'autre côté de la grille, il y a des jeunes qui fument des chichons, bien sûr. Donc, il se fait... il commence à parler avec eux, et puis finalement, il leur achète un peu de chichons, de cigarettes, un peu de cannabis, et il va fumer son cannabis dans sa chambre. Mais le cannabis a une odeur particulière, ce qui fait qu'il est dénoncé, et que les forces de l'ordre arrivent, bien sûr.
Mais il a quand même 3 jours de bonheur, là.
Hein. Ah, il a de l'extase pendant plusieurs jours, hein. Voilà. Vraiment de l'extase. C'est une façon de s'évader aussi, hein.
On va un peu en zigzag. Hein,
complètement, mais
c'est
pas...
C'est une manière de ne pas raconter l'histoire. Je me suis régalé. Vous avez des mots très durs pour décrire la directrice de cette maison de retraite.
Si on est bon,
je peux vous demander de les lire?
Oui, je ne mets pas de nom, donc... Bonjour, monsieur Métral, je suis la directrice. Je m'appelle Hortense Tremblon. Bienvenue dans notre établissement. Les oiseaux sont heureux de vous accueillir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre intégration se passe le plus agréablement possible. La directrice, une femme sans âge, debout derrière un bureau empire, déjà un signe de pouvoir. Elle me tend la main, sourire de composition, c'est sûr. Elle doit recevoir tous ses pensionnaires avec le même rictus de bienvenue. Je me recule, elle abandonne sa position de dominante pour venir vers moi, boudiner dans un corsage rose trop serré qui laisse cascader des rouleaux de graisse, jupe en simili-cuir, rose trop courte qui libère de grosses cuisses grumeleuses et duveteuses. Cheveux blonds filasses, retenus par un petit foulard rose lui aussi. Il n'a pas dû se laver les cheveux depuis des semaines. Mon chien revenait comme ça de la chasse, les poils tout collés. Ne croyez pas à cette comparaison que j'ai de la sympathie pour elle, surtout pas. Les attirances ne se décrètent pas. Je n'étais aucunement gêné par le pelage hirsute de mon chien, mais là... Grosses lunettes carrées, des yeux globuleux qui doublent de volume derrière les verres que je déteste, grosses, blondes, roses et vulgaires. Je parie qu'elle fume en laissant le mégot coincé à l'extrémité de la bouche. Elle sent la transpiration. Je la hais déjà. Une animosité qu'elle doit sentir car son sourire se fait plus avenant. Je l'ai dit, plus hypocrite. Elle s'avance, me tend une main moite et poursuit avec une effusion de circonstances. J'espère, monsieur Métral, que vous allez vous plaire dans votre établissement. Je sais que c'est difficile au début, car il faut tirer un trait sur son passé. Mais je n'ai aucune envie de tirer un trait sur mon passé, c'est le mien. C'est...
Vous l'avez cherché ce nom, Hortense Tremblon.
Oui, oui.
Il est venu facilement ?
Oh, très facilement.
Oui.
Et, très, très facilement.
Et la petite nièce, Grenoule, c'est quoi ? C'est un prénom ?
C'est Grenouille, Grenouille, Grenouillé, donc Grenoule, voilà, c'est...
Pablo, mon ami, qu'avons-nous permis ? L'ombre devant nous s'allonge, s'allonge. Qu'avons-nous permis ? Pablo, mon ami, Pablo, mon ami, nos songes, nos songes. Nous sommes les gens de la nuit qui portons le soleil en nous. Il nous brûle au profond de l'être. Nous avons marché dans le noir, à ne plus sentir nos genoux, sans atteindre le monde à naître. Pablo, mon ami, qu'avons-nous permis ? L'ombre devant nous s'allonge, s'allonge. Qu'avons-nous permis ? Pablo, mon ami, Pablo, mon ami, nos songes, nos songes. Je connais ce souffrir de tout qui donne bouche de tourment, amer comme l'aubépine, à tous les mots, à tous les cris, à tous les pas, les errements, où l'âme un moment se devine. Pablo, mon ami, qu'avons-nous permis ? L'ombre devant nous s'allonge, s'allonge. Qu'avons-nous permis ? Pablo, mon ami, Pablo, mon ami, nos songes, nos songes. Pablo, mon ami, tu disais, avec ce langage angoissant, où se font paroles étranges, n'est large espace que douleur, et n'est univers que de sang, si loin que j'aille, rien n'y change. Pablo, mon ami, qu'avons-nous permis ? L'ombre devant nous s'allonge, s'allonge. Qu'avons-nous permis ? Pablo, mon ami, Pablo, mon ami, nos songes, nos songes. Pablo, mon ami, le temps passe et déjà s'effacent nos voix. On n'entend plus même un cœur battre. Tout n'était-il que ce qu'il fut ? Tout n'était-il que ce qu'on voit ? Tout n'était-il que ce théâtre ? Pablo, mon ami, qu'avons-nous permis ? L'ombre devant nous s'allonge, s'allonge. Qu'avons-nous permis, Pablo, mon ami, Pablo, mon ami, nos songes, nos songes.
Au fil des arts sur Color FM, nous venons d'entendre une chanson écrite par Jean Ferrat sur un texte d'Aragon, Pablo mon ami. C'est une chanson qui suggère à notre invité Serge Revel ces mots-là, mon amour sauvage, tu aurais pu vivre.
On pourrait peut-être passer à un autre de vos livres, si vous voulez, oui. À moins que vous ayez un passage auquel non, vous
non,
êtes
non,
attaché.
Non, 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 c'est pas, non, parce nous, qu'après, ça divulgue un petit peu trop de choses, c'est déjà pas mal. Hein, vous avez vu les thématiques, voilà. Hein. Il n'y a pas oublié la solitude de cet homme. Hein, je pense que c'est important. Il est seul, depuis que sa femme est morte, il est seul. Il ne vit que dans le souvenir, voilà.
Et cette solitude.
Mais il veut vivre, hein. Il veut vivre parce que sa femme l'a demandé de vivre. Pour elle. Moi qui ne suis pas croyant, je veux dire, tant qu'on vit, l'autre vit quand l'autre a disparu.
Et cette solitude-là, ce n'est pas le fait d'une personne. Dans la société, c'est quelque chose.
Non, pour moi, c'est la solitude. Voyez. C'est la solitude du sculpteur, c'est la solitude d'une personne âgée, c'est la solitude du peintre, de l'écrivain, c'est la solitude de tout un chacun, parce que je crois qu'on est tous seuls à un moment ou un autre, hein, dans la maladie en particulier.
Alors, le vieux, la jeune fille et le capitaine.
Oui.
C'est le titre d'une fable.
C'est un peu comme cela que je l'ai conçu. Oui. Mais il est vraiment à part ce bouquin. C'est un bouquin de réjouissance personnelle.
Mais le lecteur se régale.
Oui, j'espère. Je me suis amusé en l'écrivant. Donc, voilà. Mais c'est un. J'ai tellement imaginé dans ma commune. Alors là, on retrouve plein de personnages de ma commune. Là, derrière chaque nom, il y a quelqu'un.
Hein. Il y a le maire, c'est vous ?
C'était moi, oui. Oh, je ne me suis pas trop mis en avant. Hein.
Très flatteur non plus, hein, le portrait que vous faites du maire.
Oui,
bon,
il
s'engage pas.
Oui, mais comme beaucoup. Hein. Mm-hmm. Oh, j'avais pensé à d'autres maires aussi.
Il a un adjoint.
Oui.
Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup amusé quand même, c'est on a parlé d'une troupe barbare tout à l'heure, donc on ne sait pas de quel pays ils viennent. Ils ont un capitaine absolument fringant. Toutes les femmes se réunissent autour de la cour où il fait ses ablutions le matin. Oui, complètement. Et puis, il arrive à occuper un village français plutôt catholique et plutôt réac. On a l'impression que vous vous régalez.
Je me régale, oui. Je me régale ce que j'imaginais. J'y ai vraiment imaginé là, tous ceux de... Comment on appelle ça déjà ? J'ai perdu le terme. Qui s'occupe de la paroisse, de l'union paroissiale, et leur réaction s'il y avait eu cette invasion. Quoi.
Alors, il va falloir couper les vignes, il va falloir abattre les
porcs. Oui, il faut tuer tous les porcs.
Les femmes vont devoir se mettre un foulard.
Oui.
Il y a un muezzin qui va monter au sommet du clocher pour les invitations à la prière. Vous êtes vraiment régalé.
Je me suis régalé, oui. C'est...
Puis en même temps, le capitaine, apparemment, il est beau comme un dieu.
Toutes les femmes sont amoureuses de lui, ouais, même les femmes de l'union paroissiale.
Il parle un français parfait.
Et il a un don, c'est de faire tourner les tournesols.
Et il fait tourner les tournesols.
Les tournesols sont amoureux de lui, bien sûr, ils se tournent.
Et,
c'est vrai que quand je l'ai écrit, quand j'étais passé, j'avais longé les tournesols, j'en avais revu quelques temps après, ils étaient dans l'autre sens. Mais c'est pas moi.
Et alors, il y a la fille de l'adjoint au maire.
Hein. La fille de l'adjoint au maire, de
Angélique.
Voilà, qui est un nom prédestiné.
Qui est très jeune. Et,
fille de l'union, du président de l'union paroissiale, bien sûr.
Voilà, bien sûr. Mais quand même, elle ne s'en laisse pas compter hein, par ses parents.
Non.
Elle fait ce qu'elle veut.
Elle fait ce qu'elle veut, elle est amoureuse.
Et notamment, elle regarde le capitaine, le beau capitaine. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, bien sûr, elle n'a qu'une envie, c'est de s'approcher de lui. Mais elle s'approche de lui par le biais de la lecture.
Oui.
Elle a un bouquin, elle est en train de le lire. Qu'est-ce que vous lisez, mademoiselle ? C'est pas mal, ça.
C'est les mille et une nuits qui lui fait lire. Hein ? Parce que ça lui permettra de rester plus longtemps auprès de lui, chaque soir.
Vous voulez nous lire ce passage-là ?
Que lisez-vous, mademoiselle ? Lui demanda-t-il en désignant le livre qu'elle tenait à deux mains. Un grand auteur, enfin, j'aime beaucoup, c'est très beau. Elle était émue. Elle s'en voulut de laisser paraître et reprit avec plus d'assurance. C'est un livre sur le Mexique. J'aime les livres et la littérature. Hélas, nous n'avons plus beaucoup de vrais écrivains chez nous, heureusement. Cette guerre m'a permis de découvrir un grand nombre d'écrivains européens. Et votre bouche, si charmante, va peut-être m'en faire découvrir un autre. Elle rougit de nouveau et voulut fermer son livre. « Non, non, ne fermez pas, exigea-t-il d'une voix chaude et ferme. Lisez-moi plutôt le passage où vous êtes arrêté. C'est que ce n'est pas un roman. Tant mieux. Les romans ne donnent pas toujours une image fidèle de la vie. Je les aime beaucoup, mais je préfère encore les ouvrages de réflexion. Tenez, lisez-moi les derniers paragraphes. Je suis sûr qu'ils résument à merveille la démarche de l'auteur. J'aime les dernières pages comme les premières. Un bon livre se résume souvent à une bonne entrée et une excellente sortie, le reste. » Il fit un signe signifiant qu'il était des choses de moins importance. « Lisez, s'il vous plaît. » Il ouvrit l'ouvrage à la dernière page et commença ainsi. C'est le Clésio, hein. Aussi, ce n'est pas par hasard, hein, ce n'est pas un hasard si notre civilisation occidentale retrouve aujourd'hui les thèmes philosophiques et religieux des Indiens d'Amérique. Parce qu'il s'est placé dans une position de déséquilibre, parce qu'il s'est laissé entraîner par sa propre violence, l'homme d'Occident doit réinventer tout ce qui faisait la beauté et l'harmonie des civilisations qu'il a détruites. Dernier survivant du plus grand désastre de l'humanité, les peuples indiens, et le capitaine dit, cet écrivain a raison, votre civilisation a perdu son équilibre. Elle a basculé du côté de l'obscène. Vous ne créez plus que de la futilité. Rien d'essentiel, rien qui ne mérite de rester dans l'histoire. Et vous voudriez qu'on vous admire. Vous avez détruit les peuples dont la civilisation était 10 fois plus raffinée que la vôtre, et maintenant ils se vengent à leur façon. Les barbares sont de retour, dites-vous, c'est un peu facile, n'est-ce pas?
Oui. Non, elle va profiter de ce que le capitaine bienveillant à son égard.
Très bienveillant.
Mais on a dit qu'on ne racontait pas.
Oui. Et alors, de toute façon, il est plus trouvable, alors.
Il est plus trouvable.
Non.
C'est dommage. Alors, elle va le trouver, elle lui demande notamment... Le muezzin lance ses invitations à la prière ailleurs.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez?
Je ne me souviens plus.
Et il va demander à ce qu'il aille inviter toute la population à la prière à la mairie. Et le maire n'est pas très content.
Je ne me souviens plus.
Vous vous souvenez plus?
Ah non.
Ah, il faut le relire.
Franchement, je ne me souviens plus. Oui. Comme quoi, hein, on abandonne et on passe à autre chose.
Oui, oui, oui. Maintenant, je voudrais qu'on parle. Deux minutes, quelques minutes, du sculpteur de rêve.
Ah, très beau livre. Mon premier roman. Ah,
c'est votre premier roman, celui publié sous
un pseudonyme.
Yvan Briac. Vous l'avez trouvé où, ce pseudonyme?
C'est un anagramme de mon nom, de mon prénom, de mon grand-père, voilà.
Alors, bon, on ne va pas raconter l'histoire non plus, hein, mais ça se passe en Grèce.
Oui, oui.
Naxos.
Naxos, oui. Paros, Naxos,
Paros, oui.
Voilà.
Ce qui sont deux îles. Paros, c'est là que les plus
c'est
grands
sculpteurs grecs se sont voilà, c'est là que le plus beau marbre. Le plus beau marbre, c'est à Paros, oui. J'y suis allé. Hein.
Vous êtes allé,
mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Après.
Vous êtes allé après.
J'y suis allé après, oui.
Après,
longtemps après.
Ah oui.
Mais bon, j'avais tellement étudié la civilisation grecque, je connaissais pas mal de choses. Puis pour ce bouquin, j'étais allé voir un sculpteur sur pierre, j'étais resté longtemps, je suis allé voir plusieurs fois un sculpteur, il m'a expliqué sa façon de travailler, je suis resté très très longtemps avec lui.
Mais ça se sent la lecture, comme tout internaute moyen, on va voir une notice sur Wikipédia, vous connaissez le marbre, vous connaissez tous les outils, le travail du sculpteur, vous le décrivez avec des mots qui sont...
Oui, c'est parce que j'ai appris plein de choses avec cet homme-là.
Donc c'est l'histoire d'un vieux sculpteur, sa femme est morte, et un commissaire de police veut en savoir plus. Il n'est pas satisfait, donc il le convoque. Donc le sculpteur se rend à cette convocation. Il doit prendre le bateau, et entre-temps, il repense à sa vie. Il revoit tous les gens qu'il a croisés. Il y a des personnages magnifiques. Il y a le poète, conteur d'histoire, Séphéris, joueur de Santouri, il y a le médecin, Michaelis.
Voilà, il y a l'énorme...
Milena.
Où est-ce que vous l'avez? Qui fait 130 kilos.
Une espèce de, comment dire, prostituée au grand cœur, on va dire.
Oui, mais ça aussi...
Qui vient chercher la lumière.
Ça, c'est quelqu'un que j'ai connu.
C'est quelqu'un que vous avez connu. Ça ne m'étonne pas, elle est tellement présente dans le bouquin.
Oui, oui.
Extraordinaire. Et puis, il y a les cours de sculpture à Carrare.
Là aussi, il faut bosser pour écrire. Hein. Des bouquins, c'est du travail. Hein. C'est Céline qui disait qu'il faut énormément de travail. Et il y avait une interview, il disait, vous croyez que j'écris ça comme ça, là, que c'est tout simple? Mais en fait, mais c'est des heures, c'est des milliers d'heures de travail qu'il faut faire pour arriver à écrire correctement. Puis il avait une image qui est intéressante aussi, moi, que j'aime bien reprendre. Il disait que écrire, c'est écrire avec un stylo tordu. Et que c'est quand on trempe son stylo dans un verre d'eau, on voit on a l'impression qu'il est tordu, il apparaît comme tordu. Et pour écrire droit, il faut d'abord tordre avant le texte, tordre avant l'écriture. Et comme ça, elle paraît droite et belle après derrière. Et je trouve que l'image est assez extraordinaire.
J'aimerais bien que vous nous fassiez la lecture d'un passage, un très beau passage de ce bouquin, hein, s'il vous plaît.
Partir. Le secret de la pierre. Aller chercher le secret de la pierre. Presque un jeu, comme dans les livres d'enfants. Pendant des mois, Petros retourna ce conseil, mille fois dans sa tête. Mais où, Séphéris? Où le trouver? Si je savais, soupirait le poète, je serais déjà Phidias ou Praxitèle. Je serais Miron ou Lysippe, mais je ne sais rien. Et puis, pour moi, c'est trop tard. Regardez mes mains. Regarde comme elles tremblent. Je suis tout juste bon à tailler des pierres au carré. Et disant cela, il reniflait, larmes ou regrets, et il se mouchait bruyamment, prenait son centouri, fermait les yeux, et égrenait des notes qui le faisaient pleurer. Mais où le trouver, Séphéris? Où? C'était plus un jeu, plus même une quête. Il avait trop d'urgence, urgence d'espoir. Et Séphéris regardait de croître l'impatience. « Écoute, lui dit-il, un jour où Petros était revenu désespéré d'une longue balade dans la vallée de Mélanès, où il était allé voir le couros inachevé de Flériot, qui reposait dans un jardin ombragé, comme s'il attendait une main pour reprendre forme et vie. Écoute, as-tu entendu parler de Saint-Jean Chrysostome? Tu connais son monastère, Apollonas? Tu sais qu'on s'y rend en pèlerinage? Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'avant qu'il existe, avant qu'on songe même à le construire, un homme vivait dans une grotte près du vieil olivier qui avait dû pousser du temps de Socrate. Ah, de Socrate, tu exagères. Si tu ne me crois pas, je me tais. Non, non, de Socrate, d'accord. Si tu le dis, cela est vrai. Où en étais-je? Tu parlais d'un vieil olivier, de quelqu'un qui vivait dans une grotte. Oui, la grotte était minuscule. On pouvait à peine y tenir debout. Un très vieil homme y habitait, on venait le voir, on venait le consulter, parce qu'il détenait la sagesse, et parce qu'il savait la source du monde. Il avait réponse à tout, et chacun rentrait apaisé. Un homme un jour, un homme encore jeune, vint lui rendre visite. Il venait d'un village à la limite de l'Albanie, un village caché au fond de la vallée d'Aos, dans la montagne de Pindas. Il avait voyagé pendant plus de 2 mois pour venir jusqu'au vieil homme dont il avait entendu parler par un marchand de voyageurs qui s'était arrêté dans son village. « Il paraît, dit-il, que tu peux répondre à toutes tes questions et que tu sais la source du monde. »« Je ne sais rien, répondit le vieillard. Je suis le plus ignorant, le plus incapable des hommes. Ne crois pas ceux qui parlent à tort et à travers. Ta renommée est parvenue jusqu'aux confins de la Grèce. Les renommées sont aussi vite établies que détruites. Mais dis-moi, que viens-tu chercher après un si long voyage ?»« Je voudrais devenir un vrai peintre et je ne sais pas comment y parvenir. Et tu es venu chercher une réponse auprès de moi qui ne sais rien. Tu sais la source du monde et les chemins de vie. » Connais-tu au moins la peinture? Oui, je connais Aristide et Douris, Clitias, Aétion et Panénos, et tant d'autres que je ne saurais citer. Je me suis essayé à les imiter. Regarde ce que je fais. Et il montrait une planche de bois sur laquelle il avait dessiné, à la façon d'Aristide, une mère mourante dont l'enfant essayait d'atteindre le sein. C'est apparemment bien fait, dit le vieil homme. Tu dois avoir du talent. Mais tout est figé dans ce tableau. Aucune vie, aucune présence. Je le sais bien, c'est pour ça que je suis venu. Comment faire pour aller au-delà? Comment être un vrai peintre? Pourquoi tu peins? Parce que j'aime les couleurs. J'aime la vie et les autres. Et toi?
Moi?
Oui, toi, t'aimes-tu?
Moi, peut-être, je ne sais pas.
Réponds-moi franchement. Cherches-tu à être connu, à laisser trace de ta vie?
L'homme hésita avant de dire qu'il avait peur de mourir ignoré.
C'est cela, dit le sage. Avant tout, oublie que tu es mortel. Ne t'occupe pas de l'au-delà. Donne-toi à ton œuvre sans arrière-pensée, totalement. L'éternité est accessoire, et elle viendra d'elle-même si tu le mérites. Quant à ton art, tu as commencé à imiter les anciens, c'est bien, c'est le chemin obligé. Comme les poètes et les sculpteurs, il faut regarder et imiter, mais tu dois t'écarter rapidement de ce chemin. Tu n'as que faire du talent des autres. Tu dois trouver ta voix, la seule, l'unique, celle dont tu ne t'écarteras plus jamais.
Mais comment ? J'ai parcouru toute la Grèce, j'ai regardé les autres, je me suis essayé à toutes les formes, à toutes les couleurs, à toutes les nouveautés et à toutes les outrances. Et j'ai si peu progressé, parce que tu n'as ni l'humilité, ni l'orgueil des grands hommes. Tempesta
sever dilatazer da orge risonava orugio i aviumara quando chiama vestino on se forza fino alla zondarella mezza ella è cascato prima ivra un calaverga a un punto segnalato Gabre in cerchio lo regalava la notte nera bianca a barca si incamminava pastore se spento quando nascia un bambino rentore c'è io visto come un cielo d'una mano superiore c'è
Vous êtes toujours sur Couleur FM pour l'émission Au fil des arts. Nous avons entendu « Où pastorer des guisonniers » par Imou Vrigny. C'est un chant de Noël avec toute l'émotion donnée par ces polyphonies corses.
Et vous écrivez régulièrement tous les jours ?
Depuis une dizaine d'années, oui.
Oui.
Avant, non, quand j'avais le temps.
Et un certain nombre d'heures ou ça dépend des jours ?
Avant ou maintenant ?
Non, là, maintenant.
Ah, c'est tous les jours ?
Tous les jours.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Vous mettez devant
votre ordinateur. Je me mets devant l'ordi à 6h du matin, 5h, 6h et j'écris. Mm-hmm. Comme ça, je peux commencer une journée normale après.
Donc, vous avez des projets d'écriture ?
Ah, mais j'ai déjà deux romans d'avance, plus d'autres. Oui, oui, oui.
Ah, mais vous n'arrêtez pas ?
Non, j'arrête pas.
Mm-hmm. Vous pourriez pas
trois demander, même, excusez-moi, trois.
Vous ne pourriez pas demander au Rouergue qu'il fasse un effort pour le rééditer ? Ça serait bien, non ?
Jeune fille capitaine, il était chez... comment il s'appelait ?
Michalon.
Et puis, ils ont fait faillite, Michalon. Mm-hmm. Je l'ai repris, je l'ai réédité moi, parce qu'il y en a plein qui me le demandaient. Finalement, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de choses. Hein. Dans 20 ans, j'aurai une œuvre. C'est comme ça, hein.
Le sculpteur de rêve, c'est celui avec lequel on...
Ben, c'est celui que je préfère, moi. Puis finalement, il est toujours d'actualité. Il est intemporel. Contrairement aux autres, il est intemporel. Mais un bouquin, c'est... Un bouquin, c'est ça, je veux dire... Mais un bouquin, c'est ça, je veux dire, s'il est en accord avec l'actualité... Le bouquin de Pierre-Jacques Azélias, je me souviens, il y a 30, 40 ans, là, c'est parce qu'on avait la fuite des paysans vers les villes et la nostalgie de la campagne qu'il a eu ce succès-là. Montaillou, village occitan, 60 000 exemplaires, je me rappelle. C'était un bouquin qui est très vachement dur à lire. 60 000 exemplaires, ça aussi, c'est pareil. Hein. C'est toujours... On tombe à un moment donné, au bon moment. Pour ça, il y a 3 ans, j'aurais dû le sortir, celui-là. Ouais. J'avais trop d'avance.
Vous devriez le ressortir.
Ben, je ne sais pas, avec Michalon, c'était à 3 000, ouais, c'est la base. Ouais, ça, ouais.
Et puis, j'aimerais bien quand même que celui que vous avez en cours soit
équipé. Pas, pas celui-là, parce qu'il va sortir le troisième tome sur en juin.
Le troisième tome, ça, c'est votre trilogie. C'est votre
ma trilogie sur en juin, ouais. Complètement. J'ai vu qu'il y avait, on était 4 à voir, il y avait un article dans La Croix l'autre jour sur 4... Il y a un article dans La Croix là-dessus, justement, sur 4 écrivains qui parlent autrement de la vieillesse. La vie d'un livre, c'est...
Vous devriez
lancer une grande campagne de dédicace dans la maison.
Semer le vent de la révolte.
Ah oui, oui, oui.
Et la directrice, là, donc, de la fameuse...
Il y en a plusieurs directeurs et directrices.
Non, mais celle que vous avez décrite.
Oui, c'est un patchwork. Un patchwork. Oui, c'est un patchwork. Taillé sur mesure. Mais la caricature, c'est ça. Je veux dire, quand on est dans l'humour, il faut aller jusqu'à la caricature. La caricature, c'est l'excès. L'excès avec tout ce que ça peut comporter aussi. Hein, je veux dire, il n'y a pas de méchanceté non plus derrière. Hein. C'est un sourire.
Et les prochains, on peut savoir un peu les thèmes.
Le prochain, il y a le troisième tome des Frères Joseph, voilà, hein, dont on n'a toujours pas le titre avec l'éditrice, parce qu'on n'est pas d'accord. Et puis après, il y en a un autre que j'ai fait lire à Anne, là, qui s'appelle Seul, sur la solitude. Puis un autre que je vais faire lire aussi, qui se passe entre la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier et le Québec. Toujours aussi sur la solitude, ouais, d'une certaine manière. Puis un autre qui est en route. Un peu, oui, c'est ça. Même beaucoup.
Combien de temps vous a fallu pour écrire l'évasion de Paul Métral?
Je suis incapable de vous dire. Six mois, mais l'autre, c'est 2-3 ans. Hein. L'autre, c'est 3 ans. Et puis les Frères Joseph et tout, c'est 1 an. Hein. Il faut se documenter, c'est terrible. Mmh. Et
pour vous documenter, vous documentez-vous?
Quand il n'y avait pas Internet, les bibliothèques, les bouquins, les bibliothèques, les lectures, etc. Puis bon, j'avais une culture grecque quand même qui était... J'ai fait une licence de lettres classiques, de prof de latin grec, donc ça allait, ça. Mmh. Hein? Mais oui, quand même. Hein? Puis j'avais un père qui était prof d'agrégé de lettres, de grec, etc. Donc voilà, ça m'a bien aidé. Mais autrement, Internet ou des bouquins, la lecture, oui. Hein? Internet en faisant attention, parce que beaucoup d'erreurs. Il faut vérifier 2 fois. Hein. Ah ouais, beaucoup d'erreurs. Ouais. Surtout historique. Hein, dans l'histoire, il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Enfin bon, il y a des sources fiables aussi. Hein. Il y a des sources fiables. Ouais. Quand on prend des universitaires et tout, il y a des sources fiables. Ouais. Puis bon, moi, j'ai l'habitude, comme beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude de lire, hein. Moi, en étant prof à la fac, j'ai l'habitude de faire de la synthèse, hein, de lire énormément, donc de synthétiser très vite. Hein. Donc quand on lit 7, 8, 10 bouquins, on synthétise, on voit l'essentiel et tout. Enfin, c'est un énorme avantage, énorme, cette gymnastique de l'esprit.
Vous avez un gros travail de relecture?
C'est ce que je préfère.
Ah oui?
Ah oui, j'adore relire, arranger, peaufiner, oraliser après. Vraiment, je préfère la relecture. J'ai hâte de finir pour relire. Et puis arranger les phrases... les rendre plus musical, c'est ça surtout qui m'intéresse.
Donc en fait, le premier jet, il est loin du produit
fini. Non, pas forcément, mais caresse, on peaufine. Mm-hmm. Caresse les mots.
Ouais, vous les sculptez, les mots.
Oui. Ça. Caresse les mots, oui.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire infiniment brisés par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Dernière pause musicale souhaitée par Serge Revel, comme toutes les précédentes. Vous avez bien entendu reconnu Les Marquises de Jacques Brel. Cette chanson, parce que Serge Revel a une passion pour les îles, comme il nous l'a dit pendant cet entretien. Serge Revel, pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec votre éditrice, Nathalie Desmoulins?
Ah ouais, ouais, une femme qui écrit super bien. Ah oula, elle est d'une exigence incroyable, hein. Incroyable, hein. Parce que là, non.
Elle l'a pris, je lui ai envoyé pour le fun, je lui ai marqué, je vous envoie ça pour le fun. 8 jours après, elle m'a dit, je le prends, j'ai pas eu de correction. Incroyable. Je l'ai envoyé pour le fun, hein, vraiment. Hein. Il n'était pas corrigé, il y avait encore plein de fautes. Voilà. Alors que le troisième tome, là, ça fait 3 fois qu'elle me le fait refaire. Il est entre la première mouture et la dernière, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, vraiment, reprendre et tout, elle fait un super travail. Vraiment des beaux travaux d'éditeur. Hein.
Et le titre, pareil, c'est vous qui l'avez trouvé ou
généralement, non, moi j'avais mis Le Vieux qui rêvait de liberté. Et c'est elle qui m'a mis Les Grandes Évasions de Pométral, qui a trouvé la couverture, ce qui est super belle, très symbolique. Non, non, mais pour les titres, c'est pas mal. Juste le dernier, là, je suis pas d'accord. Là, je vais en faire un peu, là, ouais.
Là, je commence un peu, je peux commencer à me permettre, là, maintenant. Avant, j'aurais pas osé, mais là, je peux. Ah oui, je lui ai dit, si vous voulez pas le prendre, l'éditer, je vous dis, éditez pas, moi, je peux plus, hein, j'en peux plus. Non, non, c'est terrifiant, hein. Je savais plus où j'en étais, hein. Quand on fait reprendre des histoires, des personnages et tout, on sait plus où on en est, hein. Je veux dire, on n'a plus le fil. Ah oui, c'est un vrai travail.
Ah ouais.
Un vrai travail éditorial, ouais. Elle n'impose rien, mais...
Ouais. C'est pas pour le plaisir.
Ah non. Elle a raison à 80-70%. 30%, non. Pardon ?
Il faut résister sur les 30%.
Ah bah oui. Bah oui,
quand même. C'est bien si finalement ce pouvoir de l'éditeur, est-ce qu'ils ont toujours vraiment toujours raison ou pas ? Ou est-ce qu'ils peuvent se tromper aussi par rapport à votre travail ?
Je pense qu'ils peuvent se tromper. Hein. Puis chaque éditeur, je pense qu'ils ont leur façon de voir les choses. C'est un écrivain, Nathalie. Elle a une écriture qui est spéciale, qui est belle. Moi, j'aime bien. Hein, elle a horreur des dialogues. Elle a une sainte horreur des dialogues. Donc, qu'il y a trop de dialogues dans mes bouquins, elle n'aime pas. Donc là, on n'est pas forcément d'accord. Mais les dialogues, ça peut du du sens aussi. Oui.
Oui.
Ah oui, avec bonheur. Hein. Je relisais Mali au Mali d'Orsena. Il n'y a que du dialogue, pratiquement. C'est fantastique. Hein. C'est extraordinaire. Ah si, j'ai un bouquin à écrire sur le Mali, hein, justement. Non, non, mais c'est un bouquin. J'ai une amie, la femme d'un ami qui est malienne, qui a été excisée, qui a une vie incroyable. Elle vivait dans un petit village du Mali et tout. C'est une vie à raconter, hein, vraiment une vie à raconter. Mais il faut que j'aille au Mali, je ne peux pas écrire. C'est pas possible. Ah non, 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 il faut y aller plusieurs mois pour comprendre. Oui, parle bien français aussi, donc c'est plus. Mais il y a des formules et tout ça, oui. Là, il y a un super bouquin à faire, mais.
Serge Revel, merci.
Merci à vous.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.